Parce que l'enseignement qui nous a été enseigné, c'est cela. La vision seulement, c'est les pasteurs qui peuvent les recevoir. Et nous sommes restés avec cette logique qui ont fait que les gens n'ont pas beaucoup évolué dans la chose de Dieu. Par la simple raison qu'ils ont été enseignés que la vision, seulement c'est le pasteur qui les reçoit. Or, chaque personne qui vit sur terre vit pour un but spécial pour lequel Dieu l'a laissé sur terre. Et la compréhension du but ou de la raison plutôt pour laquelle vous êtes sur terre, cela est appelé la vision. Ça, c'est déjà la première des choses. Donc, le but pour lequel vous vivez sur terre, la compréhension de la raison pour laquelle vous êtes sur terre, cela est appelé aussi la vision. Ça, c'est très important à comprendre cela. Alors, aussi, l'objectif que vous êtes taillé vous-même pour poursuivre quelque chose que vous voulez faire dans la vie, cela est une vision. C'est pourquoi j'ai dit pendant que j'ai parlé de la vision, j'ai dit, il faut que vous ayez les projets dans la vie, les projets trimestriels, les projets semestriels et les projets annuels, voire même le projet à long terme. C'est-à-dire que c'est là qu'on appelle la vision. Et celui qui n'a plus de projet, qui n'a plus d'idée d'avenir, qui n'a plus la pensée de l'avenir, ce qui veut dire complètement, cette personne est déjà mort. Mais il est vivant, mais il est mort. Il attend qu'on mette dans le cercueil, qu'on le dépose au cimetière, parce qu'il n'a pas de vision. Puisque une personne qui a la vision, il a dans sa tête l'esprit de ne pas mourir maintenant. Tu ne peux pas me dire que je vais mourir demain. Je ne pense pas encore à ça. Parce que j'ai encore des visions dans ma tête que je désire réaliser. Il y a des choses que je dessine tous les jours dans ma tête. Je dessine des choses dans ma tête qui sont dessinées. Je me vois avec des entreprises. Ce sont des choses que je dessine dans ma tête. Donc, comme je dessine ça, je n'ai pas envie de partir maintenant. Il faut que cela se réalise. Et en plus, Dieu a dit pour chacun de nous, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Tant que je n'ai pas accompli ce que j'ai dit. Donc, pour chacun de nous aussi, Dieu lui a déjà dit quelque chose. Et pour cette chose-là qu'il t'a dit, soit par la vision, par la prophétie, par la prédication, par la lecture, par les pensées, par une voix audible, ou par la souffrance, ou par le songe, tout ce que Dieu t'a déjà parlé là, sachez-le que ça doit s'accomplir, ça doit se réaliser, ça doit s'exécuter. Voilà la pensée du Tout-Puissant. Cela, ça doit s'accomplir sans faute parce que la pensée du Tout-Puissant est que cela puisse s'accomplir. C'est cela que le Seigneur est en train de voir pour toi. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de pouvoir comprendre que chaque fois que nous recevons une vision ou quoi, donc cela est obligé de s'accomplir dans notre vie. C'est pourquoi il faut développer toujours une vision dans la vie telle que nous sommes. Gloire soit rendue au Seigneur. Dans le chapitre 10, j'ai parlé d'investir et s'investir pour le progrès de la vision. Investir et s'investir pour le progrès de la vision. J'ai dit que s'il n'y a pas de gens qui s'investissent dans une vision, il n'y a pas de progrès. Ça, j'ai déjà parlé, je ne répète plus. J'ai fait que petit récapitulatif. Donc, même dans le ministère, pour que le ministère puisse aller loin, on a besoin de la vision. J'ai expliqué que quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 9, verset 13 à 15 ou à 16, vous allez voir l'histoire d'une petite ville qui était tranquille. Un homme fort est venu occuper la ville. Il a commencé à construire des buildings et personne ne pouvait s'opposer à lui parce qu'il était puissant. Mais un homme pauvre du pays, mais avec la sagesse, il a pu sauver la ville. Il a pu délivrer la ville des mains de cet homme puissant qui voulait s'accaparer de la ville. Et la Bible dit, cet homme n'était pas considéré, ni ses paroles écoutées, parce qu'il était pauvre. Et Ecclésiaste se dit, les paroles du pauvre ne sont pas écoutées. Et la sagesse du pauvre n'est même pas, la sagesse du pauvre n'est pas considérée. Ses paroles ne sont même pas écoutées. Regarde un peu, les paroles ne sont pas écoutées, la sagesse n'est pas considérée. Vous voyez ce qui s'était passé? Pourquoi? Parce qu'il était pauvre. Alors, ça, c'est ce qui s'était passé dans la vie de cette ville-là. Et Ecclésiaste 7 aussi, verset 12. La Bible dit, à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. À l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. D'autres versions français courant, ces mères d'autres versions nous disent, à la protection que procure la sagesse, on est comme à la protection que procure l'argent. Le même texte nous dit, ceux qui en possèdent prolongent la vie. Donc, ceux qui possèdent les moyens, ils prolongent la vie. Ceux qui possèdent les moyens, donc ils prolongent la vie. Ce qui veut dire que nous avons besoin de pouvoir développer les moyens pour que l'œuvre que nous faisons puisse aller de l'avant. Donc, nous avons besoin d'investir. D'ailleurs, je veux dire que la vision peut se sécuriser aussi avec tout ce que vous avez aussi. Donc ça, c'est très important. Mais j'avais déjà parlé de toutes ces choses. Je ne veux plus revenir derrière parce que j'ai déjà expliqué que quelle que soit la beauté de la voiture, mais s'il n'a pas de carburant, il ne sait pas rouler, il sera poussé. Pareil aussi, quel que soit le ministère, la parole que vous avez, l'onction que vous avez, mais s'il n'y a pas de moyens, il n'y aura pas de mouvement. Quel que soit l'onction que vous avez, s'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de gens qui soutiennent, il n'y aura pas de mouvement. C'est pourquoi Jésus était soutenu. Il y avait les gens qui soutenaient Jésus, Luc 8, verset 1 à 3. Les gens qui le soutenaient, il y en avait beaucoup, parce qu'ils soutenaient Jésus, et voilà, ils soutenaient le Seigneur. Là, ils sont rendus au Seigneur. Il y a une mouche qui circule devant mon ordinateur, là. Alors, donc, il faut savoir que le Seigneur a besoin que nous puissions nous investir et investir dans la vision. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va commencer à investir dans la vision que tu reçois, ce n'est pas d'abord toi-même. Il faut commencer d'abord à penser que ce que je veux faire pour mon progrès, il n'y a pas quelqu'un d'autre, d'abord moi-même. Si moi-même je ne m'investis pas, il n'y aura pas de réussite. Même dans des études, les parents peuvent payer les études, mais si l'enfant ne s'investit pas, il n'y aura pas de progrès pour cet enfant-là. Donc, il faut que la personne soit investie lui-même. Je dis ça soit à mon garçon, je lui dis, il ne faut pas attendre que moi je sois derrière toi. Toi-même, tu dois avoir des initiatives. Moi, je te parle, moi, je te soutiens, mais toi-même, tu dois avoir des initiatives. Parce que moi, déjà, à l'âge de 18 ans, j'avais déjà des initiatives seules. Des initiatives d'aller de l'avant. Je n'attendais pas que j'aie 30 ans. Non, j'ai commencé déjà à aller de l'avant. Moi, très jeune. Pourquoi? Parce que j'avais des initiatives dans ma tête. Et donc, cela veut dire que nous devons commencer à nous investir. Alors, Dieu aussi prend des choses qui sont faibles, qui ne sont pas utiles. Il les utilise pour pouvoir changer la vie des gens. Maintenant, la question que nous allons poser, et c'est là où nous allons développer plus la partie, comment investir et s'investir dans une vision? Comment je peux investir et s'investir dans une vision? C'est la question que je dois me poser. Comment je peux investir et comment s'investir dans une vision? Alors, nous aurons des réponses. Gloire soit rendue au Seigneur. La première des choses à mettre en tête, toute vision amène la gloire. Toute vision amène le progrès. Toute vision élève. Comme j'ai dit la fois passée au début, dans la définition, la vision, c'est le dévoilement du plan de Dieu à l'égard d'un individu. Je dis aussi la vision, c'est la compréhension du futur, ce que tu voudrais faire demain, ce que tu veux être demain. La vision, c'est le secret de Dieu qu'il révèle à quelqu'un pour ce qu'il doit être. La vision, C'est la raison d'être sur la terre. La vision, c'est la mission qui t'a été demandée d'accomplir. Ça aussi, c'est la vision. La vision aussi, c'est une perspective d'avenir. Vous avez une perspective d'avenir pour vos enfants, c'est une vision pour les enfants. Une perspective pour un pays, c'est une vision pour les pays. Une perspective pour votre vie veut dire que vous êtes en train de penser pour le futur. Vous créez déjà une image du futur, comment vous voudrez être, comment vous voudrez être. Parce qu'il y a des gens qui créent l'image déjà de l'homme, comment il va se retrouver dans l'homme. Il y a des gens qui créent l'image de comment il doit vivre dans sa vieillesse. Donc tout ça, c'est la vision. Et la vision sécurise. La vision sécurise. Gloire soit à Dieu, Seigneur. La vision sécurise les gens. La vision sécurise. Et la vision sécurise, pourquoi? Parce que la vision, elle est là pour vous orienter. C'est pourquoi j'ai dit, il faut chercher à développer une vision du futur. Créer une vision du futur, une vision de demain. Il faut développer ça, c'est très important. Alors, comment s'investir dans cette vision du futur ou dans cette vision que Dieu vous a donnée? Donc, peu importe vision, mais comment s'investir? Soit la vision de Dieu, parce qu'il y a plusieurs visions, la vision divine, la vision personnelle, il y a la vision des nations, on va expliquer toutes ces choses, la vision que Dieu donne pour des nations, la vision que Dieu donne localement à la personne, la vision que Dieu donne personnellement à une personne, tout ça, donc on peut étudier ça dans les Écritures, que quoi soit le Seigneur. Ou bien la vision que tu t'es créé toi-même, je vais créer une entreprise, ou je vais créer un magasin, je vais créer une alimentation, je vais créer par exemple une petite société, je vais créer par la tête. Donc c'est une vision que tu as pour quelque chose que tu tiens à réaliser. Même vision du mariage, je vais faire des mariages, je vais planifier mon mariage. Donc tout ça, c'est la vision que tu as pour le futur. Donc tu es en train de planifier, de préparer ces choses pour le futur. Mais Allah, il faut maintenant savoir comment s'investir pour arriver à la solution. Premièrement, vous devez savoir que quand c'est Dieu qui vous donne la vision, quand c'est Dieu qui vous a donné la vision, donc vous ne devez pas faire autre chose que ce que Dieu vous a dit. Je dis bien. Quand c'est lui qui a donné la vision là, vous devez faire la vision là qu'il vous a donnée. Quand ce n'est pas lui, il ne vous garantit pas. Mais quand c'est lui, il vous garantit. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, versets 14, 15, 16, « Lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à l'écart et qui m'a appelé à être et qui m'a appelé à être apôtre, je n'ai consulté ni le sang ni la chair. » Donc la première des choses qu'il faut saisir, que lorsque c'est Dieu qui vous a appelé dans ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de s'attacher à gens pour que les gens puissent vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter un prophète pour dire qu'est-ce que je dois faire. Parce que Dieu déjà vous a parlé. Dieu déjà vous a montré ce que vous devez faire. C'est à vous de vous lancer. L'apôtre Paul dit, je n'ai consulté ni le sang ni la chair. Mais je me suis lancé dans ce que Dieu m'a dit. Quand c'est Dieu qui dit, donc lui, il garantit. Il a montré la vision à Paul. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Il a parlé à Paul en disant que je te suis à Paris ou je t'ai choisi pour que tu ailles vers les païens ou vers les païens où je t'envoie pour que tu fasses leur face sortir du puissant des ténèbres pour les amener dans la puissance de la lumière. Leur faire quitter les péchés pour aller dans la puissance de Dieu. Donc là, on voit quelque chose de très important dont le Seigneur est en train d'expliquer, plutôt Paul est en train d'expliquer ce que Seigneur explique à Paul, pardon, c'est qu'il a la raison pour laquelle il l'a appelé. Il dit que j'étais choisi pour que tu fasses quitter les gens du monde des ténèbres pour qu'ils aillent dans le monde de la lumière. Donc il a expliqué, ça c'était la vision claire de Paul. Paul ne pouvait que faire cette vision-là parce que Dieu devait garantir sa sécurité en faisant la vision. Parce que quand la vision vient de Dieu, Dieu se met derrière pour garantir. Donc, première chose à savoir, est-ce que ce que je fais, réellement c'est Dieu qui l'a dit? Ou alors, ce que je fais, c'est ma volonté qui me pousse à le faire? Ça aussi c'est une autre vision. Ou ce que je fais, c'est moi-même qui ai décidé de le faire? Donc, tu te dis, est-ce que c'est moi qui décide de le faire ou c'est le Seigneur qui a décidé ou c'est le Seigneur qui m'a choisi de faire ce qu'ils sont en train de faire? Donc tout cela, ça montre comment on peut comprendre que la vision vient de Dieu ou pas. Donc tu es en train de réfléchir pour savoir cette vision vient de Dieu ou de moi-même. Est-ce que je dois m'engager ou pas? Est-ce que Dieu est avec moi ou pas? Est-ce que dans ce que j'ai fait, je vais créer un magasin au pays? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu veut vraiment que je fasse cela? Je vais faire quelque chose. Est-ce que Dieu veut que je fasse cela? Si ce n'est pas Dieu, va sentir les ailes vont diminuer. Mais si c'est Dieu, tu vas sentir la motivation viendra. La motivation de faire la chose. Parce que Dieu est en train de vous pousser. Tu ne suis pas les gens, mais tu fais quelque chose de spécial que ton cœur est en train de te dire. Ça, c'est la vision de Dieu. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Donc, dans ces cas-là, tu n'as pas besoin de regarder qui que ce soit. Tu t'investis d'abord toi-même. Le premier investisseur, c'est toi. Il n'y a pas un deuxième. Premier, d'abord toi. Les deuxièmes viendront, mais d'abord, c'est toi le premier. Deuxièmement, pour investir et s'investir dans la vision, il faut mettre à la disposition de Dieu ou de la vision tout ce que toi tu as comme moyen. Mettez-les à la disposition. Votre santé, votre corps, vous le mettez à la disposition. Votre temps, vous le mettez à la disposition de votre vision ou dans la vision de Dieu. Et les moyens que vous avez, vous les mettez aussi à la disposition de Dieu ou à la disposition de la vision que vous voulez faire. Donc, cela est très important. C'est pourquoi nous allons lire un verset. L'apôtre Paul d'abord dit dans 1 Corinthiens 9, verset 23, il dit, « Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. » 1 Corinthiens 9, verset 23. « Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part, dit l'apôtre Paul. » Donc, je fais tout pour pouvoir participer à l'évangile, afin de pouvoir avoir part. Ça, c'est Paul qui a parlé. Mais David aussi, à son tour, quand nous allons dans 1 Chronique 29, 1 Chronique, dans 1 Chronique 29, nous allons voir encore là-bas l'apôtre, le roi David, lui aussi, il explique comment il était engagé pour la vision de Dieu. Donc, c'est-à-dire pour la chose que Dieu lui a demandé de faire. C'était pour la construction du temple. Vous allez remarquer qu'il était tellement investi, il dit que dans mon intimité avec Dieu, ou dans mon attachement avec Dieu, je donne tout ce que je possède. Écoutez ce qu'il dit. Verset 29, chapitre 29, 1 Chronique 29. Je commence à partir verset 1 jusqu'au verset 5. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune, d'un âge faible. L'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, de l'airain pour ce qui doit être de l'airain, de fer pour ce qui doit être de fer, du bois pour ce qui doit être du bois, de pierre d'onyx pour ceux qui de pierre d'onyx et de pierres d'encassé, de pierres brillantes et de diverses couleurs, de toutes sortes de pierres précieuses, du marbre blanc en quantité. Écoutez maintenant verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Voilà. Ici, nous voyons David dans son intimité avec Dieu par rapport à la vision de construire, de bâtir le temple de l'Éternel. Lui, il sait que je ne sais, ce n'est plus moi qui va bâtir parce que Dieu a dit, c'est mon fils qui va bâtir parce que moi, Dieu a dit, je ne bâtis parce que j'ai versé le sang des gens, mais c'est mon fils qui va bâtir. Mais mon fils, là, il est jeune. Il ne saura pas tout faire, cet ouvrage est grand. Alors moi, j'ai mis mes moyens. J'ai mis tout ce que j'ai. Il a préparé de l'argent, de l'or, de pierre d'onyx, tout ça. Et puis il dit, dans mon attachement avec Dieu, regarde ce qu'il dit, dans mon attachement avec Dieu, je donne tout ce que je possède en propre. C'est-à-dire, en d'autres termes, selon la conviction que j'ai pour cette vision, selon la conviction que j'ai pour ce que Dieu m'a dit de faire, je m'investis, j'investis tout. Donc, si vous voulez voir les résultats dans votre vision, investissez. Je vous dis la vérité. Si vous voulez voir les résultats dans votre vision, investissez. Je ne marche pas les mots, je témoigne ça ici. Je n'étais pas riche quand je faisais des formations. Mais à cette période-là, avoir 2000 dollars pour moi, c'était beaucoup d'argent. Je vous dis la vérité. Beaucoup d'argent. Beaucoup. Les années 92, 93, 94. Mais 2000, c'était beaucoup pour moi. Je vous dis la vérité. Peut-être que vous, c'était facile. Mais moi, c'était beaucoup. 2000 dollars à l'époque. Mais on vient, on vous donne les 2000 dollars. Mais ces 2000 dollars, vous allez aller payer pour aller en formation. Vous imaginez un peu ça? Ce n'est pas une formation d'une année. Non. Des fois de un mois et demi, des fois deux mois. Mais vous payez parce que vous devez aller participer à des formations intensives. Et ce n'est pas une fois, deux fois. C'est-à-dire 4000. Et à cette époque, 2000, si vous l'avez, les gens qui faisaient des coopérations, on appelait ça Bananjili, qui faisaient des coopérations de faire voyager les gens, ils te font voyager avec 2000. À l'époque, et moi j'avais cet argent, mais j'investissais pour les ministères. J'ai dit, je dois investir pour les royaumes. Je n'avais pas commencé l'église, n'oublie pas ça. J'étais dans une autre église, chez mon père spirituel. Je conduisais dans une église, mais j'investissais cet argent. Je disais, j'investis cet argent parce que je suis en train d'investir pour mon futur. Demain, je ne sais pas ce que je serai. Et la connaissance là, que j'ai acquis à cette période-là, m'a positionné aujourd'hui. Parce que j'ai compris la valeur. Donc, si vous connaissez, vous savez que Dieu vous a appelé à quelque chose, vous n'attendez pas les partenaires de l'église, surtout pour nous, les pasteurs, nous avons l'habitude. J'attends qui va donner les membres de l'église. Non. Le premier partenaire, d'abord, c'est vous. Dieu ne voit pas ce genre-là, d'abord. Vous, le premier, vous commencez d'abord à donner, et ensuite, les membres vont donner. Mais d'abord, vous. Quand vous dites qui va donner 1000, soyez les premiers à donner 1000 aussi. Parce que c'est votre vision, ce n'est pas leur vision. Quand vous vous donnez 1000, ces gens-là, quand ils vont voir, ils vont donner sans problème, sans hésitation. Parce que vous, vous êtes les premiers à donner cela. Parce que c'est votre vision. J'ai prêché quelque part. J'ai dit, est-ce que vous voulez acheter l'espace pour l'église? Ils ont dit oui. J'ai dit, vous voulez acheter l'espace pour l'église? Oui. J'ai demandé, les gens ont monté les doigts. J'ai dit, j'ai regardé les pasteurs, j'ai dit, petit, et toi? Et ta femme? Vous ne faites rien. Ils ont dit, oui, papy, on va faire quelque chose. Nous, on s'en a dit. Ils étaient les premiers à eux-mêmes. Hein, chacun a donné 1000, 1000, 1000. Lui et sa femme. J'ai dit, gloire au Seigneur. Et les gens commençaient à donner 1000, 2000, 1000, ainsi de suite. Parce qu'ils ont vu les pasteurs lui-même et sa femme donner. Donc ça, ce sont des choses qui font que des fois, vous travaillez Mais vous n'investissez pas dans votre ministère. Moi, je me pose des questions. Comment vous êtes allé acheter une voiture à 5 000 euros, 6 000, 7 000, 8 000, voire même 10 000 à crédit, ou 20 000, pardon, à crédit, 20 000, 30 000 à crédit. Mais votre ministère, vous n'avez jamais pris de crédit même de 10 000 pour votre ministère. Vous n'avez pas compris le crédit de 10 000 pour le ministère. Mais vous avez pris le crédit de la voiture qui coûte 30 000. Mais pour le ministère, vous n'avez jamais pris ça. Donc vous n'avez pas compris la valeur de votre ministère. C'est ça, en fait. Quand on n'a pas compris, qu'on va agir de cette manière. Dieu soit loué. Donc, il faut mettre tout ce qu'on a à sa disposition. La Bible dit dans Romains 11, à partir du verset 34 au verset 36, d'ailleurs, la Bible dit que qu'est-ce que toi tu as que tu n'as pas réussi? Et si tu l'as réussi, pourquoi tu glorifies-tu? Tout ce qu'on a, tout, c'est pour Dieu. C'est pour lui, tout ce qu'on a réussi. Je vais lire le verset. Tout ce qu'on a réussi, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour nous. Tout ce qu'on a en main, c'est pour le Seigneur. Romains, chapitre 11. Allons au verset 35, je pense. C'est d'être 35 à 36. Romains chapitre 11, verset 35 à 36. Allez, chapitre 11, verset 35 à 36. Voilà, la Bible dit, qui a connu la pensée de l'Éternel, dit Seigneur, verset 34. Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir aussi en retour? Donc, ça, on pose la question. Qui a été le premier à lui donner pour qu'à son tour, que Dieu lui rende ce qu'il a donné? Maintenant, au verset 35, c'est de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Donc, c'est pour Dieu. La santé que vous avez, c'est pour Dieu. L'argent que vous avez, c'est pour Dieu. Les maisons que vous avez, c'est pour Dieu. Tout ce que vous avez, mettez-les au profit de votre vision. Et vous allez voir, le Seigneur va agir. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout vous sera donné par-dessus. Les gens disent, ah, binoka makamanza makamanza. Non, non, non. Ne dis pas comme ça. Certains disent, vous les tâches seulement, les choses de Dieu. Sachez-le que chacun a une dimension des relations qu'il a développées avec Dieu. Les gens comme moi, tu ne peux pas me dire que toi, tout ce que tu prends, c'est pour Dieu. Et ton temps, c'est pour Dieu, parce que ma relation avec Dieu, c'est comme ça. Je sais ce que Dieu m'a dit. Mon temps, c'est pour Dieu. Mon argent, c'est pour Dieu. Tout ce que j'ai, c'est pour Dieu. C'est pour l'avancement du royaume. Donc, tu ne peux pas m'amener à une autre dimension que ça. Il n'y a que ça. Parce que c'est là que Dieu me voit. Que Dieu soit loué. Donc, vous devez investir. Et troisièmement, il faut savoir que vous vous êtes créé pour la production. Vous êtes un instrument du progrès, de la réussite du royaume du Seigneur. Donc vous êtes celui que Dieu va utiliser pour le progrès du royaume de Dieu. Vous êtes créé pour la productivité, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Éphésiens 2, verset 10 nous dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. Donc, nous sommes préparés pour de grandes œuvres qui nous attendent. Si vous ne vous investissez pas pour ces grandes œuvres, ça ne viendra pas. Donc, préparez-vous pour de grandes œuvres qui vous attendent. Donc, votre vie vous a été donnée en Christ pour des grandes œuvres qui vous attendent, que vous devez réaliser. Ces œuvres sont déjà préparées par Dieu d'avance, avant que vous ne soyez nés. Mais vous devrez entrer maintenant en réalisation de cela. Vous devez entrer en réalisation de ces œuvres qui ont déjà été préparées. Mais tout cela se fait lorsque vous comprenez que je ne suis pas là par hasard, mais je suis là pour de grandes choses. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 2, versets 6 et 7, que vous avez été ressuscité avec lui et vous êtes assis avec le Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour montrer au siècle à venir la richesse glorieuse de notre Seigneur. Et verset 10, il dit que vous avez été créés pour des grandes œuvres, ou pour des grosses œuvres, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous puissiez les accomplir. Donc, tout ça, dis-toi que sans moi, il n'y a rien qui peut aller dans mon ministère. Sans moi, il n'y a rien qui peut aller dans ma famille. Sans moi, il n'y a rien qui peut. Donc, vous êtes là comme l'instrument que Dieu veut utiliser pour le progrès même des gens de la famille, pour le progrès de votre couple, pour le progrès de votre église, pour le progrès du ministère de votre pasteur, de vous-même. Donc, ça, mettez-le en tête que je suis l'instrument que Dieu se choisira. C'est pourquoi la Bible dit, il donne la semence au semeur. Dieu donne à ces gens-là une sorte de semence. Parce que ce sont des gens qui s'aiment pour le progrès du royaume. Et il leur donne aussi beaucoup de moyens pour qu'ils puissent aller de l'avant. Et ça, c'est biblique. Et ceux qui ont compris cela, sont les gens qui avancent facilement dans la vie. Et qui ne connaissent pas trop de problèmes. Parce que Dieu les préserve. Il les préserve même des maladies, des dangers. Parce qu'ils sont des instruments pour le progrès du royaume. Travaillez pour le progrès du royaume. Vous allez voir les résultats de Dieu. C'est très important. Alors, donc, comme je disais, que nous devons tout faire pour participer à l'avancement du royaume. Il faut savoir que lorsque il y a la multitude de personnes dans l'église, par exemple, l'église ne manquera pas de moyens parce qu'il y a beaucoup de personnes. S'il y a simplement 1000 membres, exemple, chaque membre donne 2 euros. Donc, l'église a directement 2000 euros à un seul culte. Si chaque membre donne 5 euros dans un seul culte-là, l'église peut avoir plus de 5000 euros. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous avez plus de gens, plus il y a la bénédiction. La Bible d'ailleurs dit dans Proverbe 14, à partir du verset 3 et 4, quand il y a l'abondance des bœufs, les crèches ne sera pas vides. C'est l'absence de bœufs qui fait que la crèche soit vide. Mais quand il y a des bœufs, la crèche n'est pas vide. La crèche sera remplie de quelque chose. Donc, ce qui veut dire que plus que les membres sont nombreux, plus qu'il y a la bénédiction dans l'église. À partir déjà de 100 membres, si vous enseignez ces 100 membres très bien, ils ont la culture de s'engager et de donner pour l'avancement du royaume, vous allez remarquer que cette église ne sera pas une église pauvre. C'est vous-même qui créez les églises pauvres. Parce que quand vous vous tenez devant l'église, vous dites, ah, je sais que vous n'avez pas quelque chose. Tokabelanzambi, qui veut aider Dieu? Parce que Kabela, le terme là en français veut dire aider, qui veut aider pour Dieu, qui veut aider.